Tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas. Ça peut changer à tout moment. Je demande aux deux parties, le Hamas et notre gouvernement, réfléchissez et faites le bon choix.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Pierre Couade.
Des négociations pour obtenir la libération des otages à Gaza semblent sur le point d'aboutir. On vous explique. Où elle semble aboutir, car à l'heure où nous enregistrons ce podcast, aucun otage n'a encore été libéré. Néanmoins, un accord a bel et bien été conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas, un texte arraché de haute lutte par un intermédiaire aussi petit géographiquement que puissant politiquement, le Qatar. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, on va voir ce que l'on peut espérer en matière de libération d'otages, où, quand et comment. On va voir que l'accord aussi prévoit la libération d'un otage pour trois prisonniers palestiniens. C'est beaucoup plus favorable à Israël que tous les échanges précédents. Et puis surtout, on va s'interroger sur le rôle qu'a joué le petit État du Qatar dans cette affaire.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Pierre Courade.
Alors cet accord, Nicolas, qu'est-ce qu'il prévoit précisément ?
Alors c'est un accord qui tient sur 6 pages, d'après le Washington Post, et qui a été très très compliqué à mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc le Hamas s'est engagé à libérer 50 otages israéliens dans les heures ou les jours qui viennent, normalement, à raison sans doute de 10 par jour. Israël, en échange, devra libérer 150 prisonniers palestiniens. Dans les deux cas, ce sera essentiellement, si ce n'est pas uniquement, des femmes et des enfants. Donc les otages, ce sera des femmes et des enfants. Les prisonniers, ce sera des prisonnières détenues dans les prisons palestiniennes, ainsi que quelques jeunes détenus mineurs. Alors, une trêve de 4 jours est prévue pour permettre ces échanges, mais la trêve pourra être prolongée pour obtenir d'autres libérations à raison de 10 otages chaque fois que une nouvelle trêve de 24 heures sera commencée. Tout ça a été un véritable mécano très très dur à mettre en place. L'accord prévoit un certain nombre de détails, comme par exemple la surveillance aérienne. Le Hamas a demandé que pendant ces 4 jours, Israël cesse d'envoyer des drones pour surveiller, tout simplement parce que le Hamas n'a pas envie que l'on puisse voir d'où sortent les otages, où sont les lieux où sont détenus les otages. Un point important aussi, c'est que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, devrait obtenir le droit de visiter tous les otages, pas seulement ceux qui seront libérés, qui seront pris en charge, mais aussi ceux qui sont gardés, et ils seront nombreux, puisque quoi qu'il arrive, il y a environ 240 otages en tout, et on en espère la libération que d'une cinquantaine.
Ouais, et pour l'heure, des discussions de dernière minute retardent ces libérations d'otages. Si je compte bien, c'est un otage libéré pour 3 Palestiniens échangés. Ça semble très déséquilibré comme accord.
Oui, ça peut sembler déséquilibré, 1 pour 3, mais c'est en réalité très favorable à Israël parce que depuis des années et des années, on était plutôt dans un rapport de 1 pour 1000. Oui. Le dernier grand échange avait eu lieu, c'était un soldat franco-israélien, Gilad Shalit, qui avait été échangé après 5 ans de détention à Gaza. Il avait été échangé contre 1047 prisonniers palestiniens, dont l'actuel chef du Hamas à Gaza, un des cerveaux des opérations du 7 octobre, qui avait été libéré contre un otage israélien. Et si on remonte un petit peu plus loin, en 83, il y avait 6 prisonniers israéliens qui avaient été échangés contre 4700 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Donc on n'était pas loin, encore une fois, du rapport de 1 pour 1000. Et puis en 85, il y avait eu des échanges où cette fois Israël avait accepté, contre 2 Israéliens enlevés au sud Liban, de libérer, alors un petit peu moins de monde, mais certains assassins très célèbres, notamment un kamikaze qui était responsable de la mort de 26 personnes. Il y a eu d'autres échanges où Israël a accepté de libérer un homme qui avait tué toute une famille, et il y avait des vidéos, on voyait cet homme tuer une petite fille de 4 ans avec une pierre dans la main, enfin des images très traumatisantes. Donc jusqu'à présent, Israël, au nom du principe qu'on ne laisse personne abandonner, même pas les morts, ouais. même pas les morts, puisqu'il est arrivé qu'Israël libère des dizaines de prisonniers palestiniens en échange d'un ou de deux corps de soldats. Donc, au nom de ce principe qu'on ne laisse jamais personne derrière, Israël était prêt à des sacrifices énormes. Là, on le voit, c'était plus dans l'air du temps. Il n'était plus question de libérer des milliers de prisonniers contre un ou deux otages. Donc, c'est un accord qui a été négocié pied à pied par les Israéliens et qui aboutit à ce ratio d'un otage pour trois Palestiniens. Accord très favorable en réalité à Israël au vu du passé.
Et un accord conclu grâce à l'intermédiaire, on le disait, d'un petit pays, hein, mais de plus en plus incontournable dans la région et dans le reste du monde, hein, d'ailleurs, le Qatar.
Voilà, c'est au Qatar, c'est à Doha, la capitale du Qatar, qu'ont eu lieu ces négociations très difficiles pendant des mois. Et c'est évidemment un succès pour l'Émirat. En fait, le Qatar, c'est le pays qui parle à tout le monde. C'est là que se trouve le siège du bureau politique du Hamas depuis plus de 10 ans. Le chef du mouvement, Ismaël Haniyeh, vit un exil doré à Doha depuis 4 ans. C'est effectivement beaucoup plus confortable de vivre à Doha
qu'à Gaza.
Mais le Qatar donc accueille le Hamas, mais pas seulement. C'est aussi là que se trouve la plus grande base militaire américaine de toute la région, avec 10 000 soldats américains qui sont stationnés en permanence.
Une petite ville, quoi. Une petite ville américaine en plein cœur du Qatar.
Voilà, juste à côté, à quelques centaines de mètres du siège du Hamas, vous avez 10 000 soldats américains. Le Qatar a aussi des liens avec Israël, surtout des liens avec les services secrets, avec le Mossad israélien. Il a aussi des très bons rapports avec les Européens en général et avec la France en particulier, des liens en partie tissés à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui avait offert aux Qataris des conditions fiscales très très avantageuses s'il venait investir en France. Bref, le Qatar c'est vraiment le pays qui s'entend très bien avec tout le monde. Et on a tous en tête la Coupe du Monde de foot, la première réalisée en Asie.
Donc l'année dernière.
Voilà, alors le succès diplomatique que le Qatar vient d'obtenir, c'est sans doute aussi important que le succès qu'ils avaient obtenu en organisant la Coupe du Monde.
Non, en revanche, on se pose quand même cette question, hein, après ce que tu nous dis. Pourquoi le Qatar a accepté d'accueillir la direction du Hamas sur son territoire, alors qu'il y a les Américains, alors que le Qatar entretient de très bonnes relations avec les pays occidentaux, il accepte tout de même de recevoir les dirigeants du Hamas sur son territoire?
Oui, parce que ça arrange tout le monde. En fait, c'est même les États-Unis qui avaient conseillé au Qatar d'offrir l'asile au chef du Hamas au moment où ça devenait trop dangereux pour eux de rester à Gaza. Pourquoi ? Ben parce que Washington préférait les savoir là, c'est-à-dire tout près, chez les alliés qataris, plutôt que de les voir partir en Iran en particulier, ou bien chez Bachar el-Assad en Syrie. Donc ça permet de garder le contact et de pouvoir négocier avec le Hamas, et c'est exactement ce qui vient de se passer. Et puis comme les Israéliens n'imaginent pas du tout de pouvoir se retrouver physiquement vraiment autour de la même table pour discuter avec le Hamas, eh bien il faut des intermédiaires. Ouais. Et en l'occurrence, eh bien les hommes du Hamas n'étaient pas à la négociation. Il y avait les Américains, il y avait les Israéliens, et ce sont des négociateurs qataris qui représentent les intérêts du Hamas.
Qui parlait pour le Hamas.
Voilà, et c'est pour ça que ça a été long d'ailleurs, parce que chaque fois qu'une proposition était faite au Hamas, en fait, ils étaient faits au Qatar, qu'ils transmettaient à la direction politique présente à Doha, qui devait transmettre aux dirigeants militaires sur le terrain à Gaza, et on passe pas un coup de fil, hein, parce que ce serait trop dangereux, donc c'est très compliqué de transmettre l'information jusqu'à Gaza, et puis ensuite, il fallait qu'elle refasse le chemin inverse pour revenir, et tout ça prenait à peu près, à chaque fois, au moins 24 heures. C'est-à-dire, si Israël proposait une solution, il fallait au moins 24 heures pour pouvoir obtenir une réponse, c'est pour ça que ça a duré des semaines et des semaines.
Et quoi qu'il arrive, c'est un succès diplomatique pour le Qatar, qui héberge à la fois des militaires américains, mais aussi donc les dirigeants du Hamas, et qui finance directement la bande de Gaza.
Oui, alors au départ, c'était un financement officieux. On sait que dans les premières années, c'était des diplomates qataris qui quittaient Tel Aviv avec des énormes valises remplies de billets et qui amenaient le cash à Gaza en passant par le passage d'Erez. Depuis, c'est devenu beaucoup plus officiel. Maintenant, ça se fait au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que l'argent transite par Israël avec l'accord des États-Unis. C'est 30 millions de dollars par mois que le Qatar donne au gouvernement de Gaza, c'est-à-dire au Hamas. Alors 30 millions, c'est vraiment une aumône pour le Qatar, mais pour Gaza, c'est essentiel parce que c'est presque une des seules sources de financement. Ça permet de payer tous les fonctionnaires de l'entité. Ça permet aussi d'acheter aux Israéliens le carburant. Et le carburant, c'est essentiel à Gaza parce que ça fait fonctionner la seule centrale électrique et sans électricité. Donc sans carburant, on n'a pas d'électricité. Sans électricité, on n'a pas d'eau parce qu'il faut de l'électricité pour faire fonctionner les usines de retraitement des eaux et de désalinisation. Donc voilà, on pourrait se dire, tiens, le Qatar est le parrain donc, des terroristes du Hamas. On pourrait reprocher ce financement, mais encore une fois, ça arrange bien tout le monde. Mm. L'argent qatari, c'est ce qui permet à Gaza de ne pas avoir totalement sombré ces dernières années dans une catastrophe humanitaire. Et ça, tout le monde était d'accord, y compris les Israéliens.
Ouais, le Qatar finance, mais le Qatar a aussi une longue expérience dans la libération d'otages.
Oui, c'est devenu effectivement une des spécialités de la diplomatie qatari. La France le sait, puisque la France est souvent passée par le Qatar pour payer des rançons de nos otages enlevés en Afrique ou en Irak. On sait par exemple que Chéneau et Malbruno, les deux journalistes français enlevés à Bagdad, ont été libérés avec de l'argent du Qatar. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Le Qatar avait aussi avancé l'argent pour libérer les infirmières bulgares qui ont été retenues pendant des années par Kadhafi. C'est Nicolas Sarkozy qui avait négocié la libération, mais c'est le Qatar qui avait payé. Beaucoup plus récemment, c'est que le Qatar est intervenu pour faire libérer des enfants ukrainiens qui avaient été enlevés par les Russes. Donc c'est vraiment le pays vers lequel on se retourne lorsqu'on a besoin d'un médiateur qui soit à la fois riche, discret et efficace. Et depuis le début de la crise actuelle, c'est déjà le Qatar qui avait obtenu les quatre premières libérations d'otages, donc deux femmes israéliennes âgées et deux américaines, en attendant donc toutes les autres libérations qu'on attend pour très bientôt.
Et on l'espère évidemment pour toutes ces familles qui attendent leurs proches avec impatience depuis maintenant 50 jours. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC. Merci Nicolas, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Pierre.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.